Octave Milton à Livia Colangeli, 5 septembre 2017. Livia. Je suis bien arrivé à la Villa Médicis. Et plus j'y songe, plus je me dis que je n'y serais pas sans toi. Quel était ton projet en me poussant à candidater ici? Bah, je le découvrirai bien assez vite. Moi qui m'attendais à avoir une chambre ornée de fresques, me voilà bien emmerdé. Je suis à Sarcelles, comme les pensionnaires appellent, tu dois le savoir toi qui sais tout, la partie la plus pourrie à l'est du domaine. Le ménage n'était pas fait dans mon pavillon, j'ai trouvé des miettes dans les plis de mon canapé et des poils collés au tiroir de la cuisine. Si on veut des draps et des serviettes, il faut payer 150 euros. Je pensais qu'il y avait une cantine, même pas. Seulement un café, le Colbert, qui fait des salades hors de prix et qui ferme à 18 heures. Alors oui, j'ai un atelier à Neuilly. J'y accède soit par le Bosco, la petite forêt surélevée qui relie les deux parties du parc, soit par l'allée des orangers, qu'on devrait appeler l'allée des artichauts. Notre directrice, qui adore les artichauts, en a fait planter tout le long, on ne voit plus que ça. Un atelier, mais pourquoi faire? Je ne suis pas un peintre. Que suis-je au fait? Bon. L'atelier est humide et sans le renfermer. Tiens, un alexandrin. Il est juste à côté de la grosse déesse Rome. C'est une statue antique qui restait là parce qu'elle était trop lourde et trop moche, mais l'histoire ne le dit pas, pour être déplacée à Florence au moment où l'Italie a cédé la villa à la France. Tu le savais que toutes les autres statues sont des copies ? Le Mercure en bronze au-dessus de la fontaine, c'est la copie d'un original parti pour Florence. Et les deux lions devant le palais, ces lions graves et joueurs, la patte posée sur une boule, des copies en travertin. Et la flèche de granit rose. Copie aussi, copie, te dis-je. Quant au Niobide, quelle déception. On m'avait inventé ce groupe antique, les enfants de Niobé tombant sous les flèches d'Apollon et d'Artémis, avec des poses et des expressions toutes plus pathétiques et charmantes les unes que les autres. Tout est faux. Ce sont des moulages faits par un pensionnaire d'après les originaux conservés aux offices sur commande de Balthus. Bref. Je m'apprête à passer un an à Hollywood. Bacci De Lucy, Octave.
Livia Colangeli à Octave Milton, 6 septembre 2017. Pardonnez-moi, mon cher, mais vous extravaguez. Entre dans la chambre aux oiseaux. Regarde les murs, les plafonds. Des hérons babillent avec les perdrix. Un hibou dort. Le singe et le hérisson se querellent et la vigne s'enroule autour de la queue de l'écureuil et ose encore me dire que tu es à Hollywood. Hollywood, bois sacré. Oui, tu y es quand tu montes sur le Bosco où Messaline fut mise à mort, où Ferdinand de Médicis espérait être enterré, où un pensionnaire un jour s'est pendu parce qu'il ne parvenait pas à trouver une fin à son livre. Et puis copies, originaux, c'est toi qui manques d'originalité. Qu'est-ce que ça peut te faire que ce bronze-ci soit moins vieux que ce bronze-là? Ce mercure qui s'élance au-dessus de la fontaine, ce chef-d'œuvre de la sculpture maniériste, ce dieu qui ne repose que sur un souffle d'air, trouves-tu qu'il en ait moins de grâce? Que la patte des lions en soit moins majestueuse? Si c'est le cas, je plains ton manque d'imagination. Livia.
Octave Milton à Livia Colangeli, 7 septembre 2017. Tu as sans doute raison. Mais la raison ne peut rien contre mes sentiments. Que veux-tu? J'aimerais pouvoir imaginer l'homme de la Renaissance qui a modelé ce museau, taillé cette lance, affiné ses orteils et creusé cette oreille. Et puis parlons-en de ce bois sacré, de cette forêt minuscule. Tous les chênes du Bosco sont rongés par un ver mystérieux. Les arbres sont creux comme les moulages de la gypsothèque. Presque tous sont déjà morts. Comme ces squelettes menacent de s'effondrer, traverser la forêt est devenu un vrai danger. Je reviens d'une visite guidée que nous a faite Gérard Holz, le mari de notre directrice. Il nous a montré certaines parties de la villa et du jardin. Il a des baskets, un short, des mollets très bronzés et très musclés. Il paraît qu'il fait beaucoup de vélo. Il parle de sa femme en disant « ma femme d'amour ». Et il explique « nous sommes un couple très soudé ». La visite était sans doute intéressante, mais dans l'état de fatigue où j'étais, il m'était plus facile de regarder ses mollets que de me concentrer sur les exploits des Médicis. Je voudrais te raconter des anecdotes. Par exemple, sur Amélie Biberon, l'artiste qui se filme imitant les bruits du corps et qui, à un moment donné où j'ai ravalé discrètement un paix, m'a dit, pensive, « je me demande comment vous allez m'inspirer ». Mais je te raconterai tout plus tard. Je suis trop fatigué. Octave. Octave Milton à Livia Colangeli, 18 octobre 2017. Livia. Je sors d'un déjeuner de bienvenue au palais Farnèse. L'ambassadeur ressemble à un cadavre élégant. Ses yeux font des trous dans sa peau. Muriel Mayette l'appelle Jacob pour montrer qu'ils sont amis. Xavier, le designer mélanchoniste, était venu en clodo pour montrer qu'il ne mangeait pas de ce pain-là, avec un gros sac à dos de randonnée, une chemise à carreaux chiffonnée, des cheveux gras et des baskets boueuses. J'ai dit « Xavier s'est habillé pour l'occasion » et il m'a regardé méchamment. « Je n'ai pas compris ta blague. » Nous étions dans la galerie des Carracci, autour d'une grande table rectangulaire et nous avons dû nous présenter un par un. J'ai allumé discrètement le dictaphone de mon portable pour tout enregistrer. J'ai bien aimé Bertrand Mognon, l'un des deux compositeurs qui a présenté son projet en ces termes exacts. La nécessité de mes recherches émane d'une problématique simple. Comment faire émerger une complexité musicale qui ne soit pas un bariolage de signes à donner la migraine à plus d'un, mais bien plutôt résultant de l'émergence d'une surface musicale irréductible témoignant du rapport fructueux de la confrontation initiale, celle de l'hétérogène. Irina, l'autre écrivain, a dit en toute simplicité « C'est moi qui ai trouvé le moyen d'opérer le lifting du cœur coincé entre deux failles, l'écran du temps et l'espace du clavier. » L'ambassadeur et Muriel Mayette hochaient la tête. Le plat principal était une caille au foie gras. Irina a repoussé son assiette d'un mouvement de main en prononçant « la caille me dégoûte et le foie gras me révolte ». Bertrand en a fait de même et Xavier a suivi le mouvement. À l'usus mimol, l'autre compositeur a murmuré « quels idéologues insupportables ». À ma gauche, Persée brandissait la tête de la méduse et ses ennemis en étaient pétrifiés. Devant moi, une jeune femme caressait une licorne sur fond de paysage nivernais, un tableau du Dominicain, et en haut, mille et un dieux tout nus faisaient des acrobaties. Je me demandais pourquoi il fallait toujours payer tant de beauté par tant d'ennui. Après le repas, Daniel, mon voisin restaurateur, nous a fait le commentaire des fresques qui se trouvent dans le bureau de l'ambassadeur. C'était passionnant et je n'ai rien retenu. Puis Raphaël, l'historienne de l'art, une petite personne nerveuse, est venue vers moi et nous avons fait le trajet du retour ensemble en nous séparant progressivement des autres. Je l'ai accompagnée jusqu'à la Piazza del Popolo, où elle avait rendez-vous. Dans la basilique Santa Maria del Popolo, Raphaël m'a expliqué que Caravage était un peintre machiste, violent et au fond extrêmement conventionnel. Et que d'ailleurs, sa peinture n'avait pas de crin. « Regarde-moi ça », a-t-elle ajouté en jetant sa main vers la conversion de Saint-Paul. Une Italienne qui avait surpris notre conversation nous a fait remarquer que le tableau était remplacé par une affiche de la même taille. Et Raphaël a répondu froidement « Le fait qu'on ne puisse même pas distinguer un tableau de Caravage d'une affiche prouve bien que sa peinture n'a pas de grain. » Bacci. Octave.
Marianne Renoir à Octave Milton, 25 mars 2018. Monsieur, maîtresse de conférence à l'Université de Nantes, je travaille sur les pratiques ponctuantes des écrivains contemporains en matière de discours rapporté. Et j'ai observé que vous aviez supprimé toute ponctuation énonciative de votre premier roman. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, dans les passages que j'ai soulignés, vous n'utilisez ni guillemets, ni deux points, ni aucun marqueur de discours rapporté. Votre retour me serait précieux et je vous en remercie vivement par avance. Bien cordialement, Marianne Renoir.
Octave Milton à Livia Colangeli, 25 mars 2018. Chère Livia, tu ne devineras jamais de qui j'ai reçu un message de ma... De ma quoi ? De Marianne Renoir, tu t'imagines ? Une femme qui porte le même nom que l'héroïne de mon premier roman. C'est tout de même étrange, non ? Et j'ai vérifié sur Internet. Ce n'est pas une admiratrice cinglée de plus. Non, elle est maîtresse de conférences à l'Université de Nantes. Spécialité, la cataphore. Ne me demande pas ce que c'est. Je te fais suivre son message. Je t'avoue que j'ai été flatté. De toutes les reconnaissances possibles, la reconnaissance universitaire me paraît la seule à avoir quelque valeur. Et jamais mon travail n'a fait l'objet du moindre article, de la moindre journée d'études. Les colloques se multiplient sur la Vierge, le Fils et le Saint-Esprit. Je veux dire Kerangal, Houellebecq et Carrère, et sur moi, rien. Rien. Rien de rien. Mais si je t'écris, c'est surtout pour te demander conseil. Qu'avais-tu en tête quand tu m'as fait supprimer la ponctuation ? Comme je trouvais que cela sonnait bien, je ne t'ai pas posé de questions et j'ai obéi comme un robot. Mais je serais bien en peine d'expliquer quoi que ce soit. Octave.
Livia Colangeli à Octave Milton, 27 mars 2018. Caro Ottavio. En effet, c'est une coïncidence bizarre. Cette Marianne Renoir qui paraît sortie de ton livre pour te demander des comptes. Je crois qu'en théorie littéraire, c'est ce qu'on appelle une métalepse. L'exemple le plus connu, c'est celui de la nouvelle de Cortazar, « Continuité des parcs », où un personnage sort d'un livre pour assassiner son lecteur. 1998, c'est loin, mais je me souviens bien de cet épisode. En te suggérant de supprimer les guillemets, je suis simplement allée dans la logique de ton récit. Il y a dans ta Cattiva Bambina un grand décalage entre la voix du narrateur principal, qui est censé parler un français correct, et celle des personnages qui ont un langage ordinaire, familier, parfois vulgaire. Supprimer les guillemets permettait de contrebalancer cette hétérogénéité et de favoriser une certaine fluidité. Selon la même logique, tu avais déjà cherché à compenser la diversité générique en intégrant fortement les poèmes à la narration, par exemple. Je pensais que tu passerais ainsi sans heurts d'une voix à l'autre et qu'il y aurait des zones d'indétermination. Autrement dit, des paroles communes au narrateur et au personnage. C'était aussi un moyen de ne pas faire figurer systématiquement les « dit-il » et autres « rétorqua-t-il » qui sont passés de mode. Par contre, les guillemets réapparaissent dans les deux longs textes écrits par les personnages, car cela aurait été une coïncidence trop étonnante qu'ils aient fait le même choix que le narrateur. Bachi. Et mes amitiés à Madame Metalepse, Livia.
Octave Milton à Marianne Renoir, 27 mars 2018. Chère Madame, merci pour l'intérêt que vous portez à ce petit roman. Je vais essayer de rationaliser des procédés qui sont intuitifs et je ne sais pas si l'explication est susceptible de vous intéresser. Il y a dans le roman un grand décalage entre la voix du narrateur principal, qui est censé parler un français correct, et celle des personnages, qui ont un langage ordinaire, familier, parfois vulgaire. L'absence de guillemets m'a paru un moyen de contrebalancer cette hétérogénéité et de favoriser une certaine fluidité. Je voulais qu'on passe sans heurts d'une voix à l'autre, qu'il y ait des zones d'indétermination qui donnent finalement des paroles communes au narrateur et au personnage. C'est aussi le moyen de ne pas faire figurer systématiquement les « dit-il » et autres « rétorqua-t-il » qui me semblent souvent lourds. J'espère avoir à peu près répondu à ce que vous me demandiez, bien cordialement, Octave Milton.
Marianne Renoir à Octave Milton, 29 mars 2018. « Cher monsieur, merci de votre réponse que je trouve très intéressante. M'autorisez-vous à vous citer dans un article que je suis en train de rédiger pour l'information grammaticale ? Bien cordialement, Marianne Renoir. »
Octave Milton à Marianne Renoir, 31 mars 2018. Chère madame, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous me citiez. Bien cordialement, Octave. Post-scriptum. Je vous avouerai que j'ai été surpris de voir s'afficher votre nom dans ma messagerie électronique, comme si l'héroïne de mon premier roman était sortie de la fiction pour me demander des comptes. Je crois que c'est ce qu'on appelle, en théorie littéraire, une métalepse. Mais vous devez le savoir mieux que moi.
Marianne Renoir à Octave Milton, 10 avril 2018. Cher Octave Milton, parfaitement. Je suis une métalepse. J'ai franchi la frontière sacrée qui sépare la fiction de la réalité pour vous reprocher tous les crimes que vous avez commis et que vous commettrez. Je vous envoie pour information et sans obligation de lecture mon article sur le discours rapporté. Ce n'est qu'un brouillon. Je n'ai encore fait figurer ni les notes en bas de page, ni la bibliographie. Comme vous le verrez, ou ne le verrez pas si vous ne le lisez pas, j'ai finalement décidé de renoncer aux exemples tirés de vos livres et de rester concentré sur l'ancien régime qui, après tout, est mon domaine. Bien cordialement, Marianne Renoir.
Octave Milton à Marianne Renoir, 11 avril 2018. Chère Marianne Renoir, je vous avouerai que je n'ai pas lu en entier votre article, mais le survol que j'en ai fait m'en a donné une impression tout à fait favorable. Quant à mon absence, ne vous en inquiétez pas. Je sais depuis longtemps que la majeure partie de la littérature contemporaine ne vaut rien aux yeux des universitaires et je m'en accommode assez bien. Cordialement, Octave Milton.
Marianne Renoir à Octave Milton, 12 avril 2018. Cher Octave Milton, je suis sincèrement désolée de vous avoir froissé. J'ai l'habitude de redéfinir mon corpus en cours d'écriture. Mais j'oubliais que les vivants sont plus susceptibles que les morts. Je pense qu'un Octave Milton vaut bien une Madame de Villedieu. La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est surtout de ma propre légitimité qu'il est question. Après avoir pensé que j'aurais l'audace de faire une plongée dans la littérature contemporaine, je me suis ravisée et je suis retournée m'allonger sur le sable qui m'est familier. Bien frileusement, Marianne Renoir.
Octave Milton à Marianne Renoir, 12 avril 2018. Chère Marianne Renoir, me confondez-vous avec une serviette de table pour penser que je me froisse si facilement? Avez-vous, comme linguiste, étudié le second degré? Ou l'ironie? Apparemment pas. Autrement, vous auriez vu que je ne parlais pas sérieusement. Une idée qui me passe par la tête et que je vous dis avant qu'elle ne soit tout à fait passée, si vous veniez me voir à la villa, Octave. Octave Milton à Livia Colangeli, 13 avril 2018. Que devient ma Livia? Je rentre d'une fête qu'a organisée Amélie Biberon pour ce qu'elle a appelé son baptême en règle. Depuis le début de l'année, elle récupère le sang de ses règles et le conserve dans de petites bouteilles disposées sur le bord de sa fenêtre. J'ai raté le début de la soirée où apparemment elle s'est aspergée les cheveux de sang. Quand je l'ai vue, elle avait simplement les cheveux collés. Il faut désormais l'appeler Ananke. Ça veut dire la nécessité en latin, nous a expliqué Raphaël. Elle a utilisé une partie de son sang pour recouvrir les murs de signes censés constituer un équivalent visuel et olfactif au bruit de son corps. Le malaise que cette peinture doit provoquer chez le visiteur est comparable à la douleur que ressentent la grande majorité des femmes au moment des règles. Alessius est arrivé tard, il m'a dit « je suis venu voir le désastre ». Après avoir fait une petite tournée d'inspection, il a ajouté « non seulement c'est dégoûtant et laid, non seulement elle abîme un appartement historique, mais en plus elle se croit originale ». Alors que 1000 pseudo-artistes l'ont fait avant elle, je ne comprends pas comment le jury a pu être dupe. J'oubliais de te préciser qu'elle habite à Neuilly, dans l'atelier d'Ingres, le plus beau logement de la villa. J'ai pris un air inquiet pour demander à l'artiste ce que deviendrait son œuvre en septembre, quand son atelier serait habité par un nouveau pensionnaire. Elle s'est assombrie. Ils vont peut-être repeindre les murs, mais là je peux te dire qu'ils feront une grosse connerie. Et ils s'en apercevront trop tard. Dans la chambre aux oiseaux, on a pu gratter et retrouver les fresques. Mais si on recouvre mon sang de peinture, l'œuvre est perdue à jamais. Par contre, son micro-ondes et son lave-linge, qu'elle a également tagué de sang, elle les a déjà vendus à une galerie. Octave.
Marianne Renoir à Octave Milton, 14 avril 2018. Cher Octave Milton, l'ironie est un mécanisme énonciatif qui repose sur la connivence. Et c'est toujours un procédé délicat lorsqu'il s'agit de personnes qui ne se connaissent pas. Vous me direz que comme lectrice de vos livres, je vous connais déjà. Je vous répondrai que... Et puis non, je ne vous répondrai rien. Quant à venir à Rome, je ne sais pas si votre proposition relève du premier ou du second degré, mais j'ai déjà un emploi du temps bien chargé et je ne vais pas pouvoir me libérer cette année. Marianne.
Octave Milton à Marianne Renoir, 14 avril 2018. Vous avez tort. La villa est une splendeur. Quand je suis arrivé, j'ai été déçu d'apprendre que toutes les statues dont le jardin est bordé sont des copies. Le mercure qui s'élance si gracieusement au-dessus de la fontaine, ce chef-d'œuvre de la sculpture maniériste, ce dieu qui ne repose que sur un souffle d'air, une copie. Le groupe des Niobides, des copies. La flèche en grès rose, une copie. Mais j'ai fini par me convaincre que cela n'avait aucune importance, que ce qui comptait était le résultat, et de fait, le résultat est splendide. Je me suis d'abord dit, on est à Hollywood. Et je me récite à présent, chaque fois que je traverse le Bosco où a été assassinée Messaline, le vers suivant, Hollywood, bois sacré que hante Messaline. Octave Milton.
Marianne Renoir à Octave Milton, 14 avril 2018. Il n'y a rien que les poètes aient plus vanté et trouvé plus enchanteur que le chant d'un rossignol qui se fait entendre dans un bocage solitaire pendant le calme d'une soirée d'été à la douce clarté de la lune. Cependant, c'est quelque plaisant pour amuser ses convives, les conduit, sous prétexte de leur faire respirer l'air des champs, près d'un bosquet où il n'y a pas de chanteur de cette espèce, mais où il a fait cacher un enfant malin qui sait parfaitement imiter le chant de cet oiseau avec un roseau ou un jonc. Aussitôt qu'on s'apercevra de la ruse, personne ne pourra plus écouter ce chant qu'on regardait un instant auparavant comme si ravissant.
Octave Milton à Marianne Renoir, 14 avril 2018. Très bien dit, Marianne Renoir. Belle description et qui me semble tout à fait juste. La différence avec votre exemple, c'est que dans le cas du faux rossignol, un ouvrage artificiel remplace un ouvrage de la nature. Tandis que dans le cas des statues de la villa, c'est un ouvrage de l'art qui remplace un autre ouvrage de l'art. La déception me semble moins justifiée. À propos de rossignol, je vous écris de mon atelier d'où j'entends l'affreux cri des paons introduits à la villa par notre directrice Muriel Maillette. Je peux vous dire que leur ramage ne se rapporte pas à leur plumage.
Marianne Renoir à Octave Milton, 14 avril 2018. La description n'est pas de moi, mais de Kant. Je ne connaissais pas le cri des paons, mais je comprends donc que ce n'est pas sans raison que sa voix lui donne des complexes dans la fable de la fontaine. Le paon se plaignait à Junon. « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature, etc. »
Octave Milton à Marianne Renoir, 14 avril 2018. J'oubliais que les universitaires parlent toujours par citation.
Marianne Renoir à Octave Milton, 14 avril 2018. Et pas les écrivains, peut-être ?
Octave Milton à Marianne Renoir, 14 avril 2018. Je ne m'aviserai pas, en tout cas, de citer Kant dans un mail à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Octave Milton à Livia Colangeli, 24 avril 2018. Cara Livia, j'ai fait une rencontre inattendue et presque miraculeuse près de la fontaine aux tortues. J'ai entendu une voix d'enfant qui lisait consciencieusement le guide Michelin, œuvre pleine de grâce et de légèreté de la Renaissance finissante, etc. C'était une délicieuse petite fille de 10-11 ans aux cheveux noisettes et dont les épaules découvertes avaient la couleur du miel. Elle s'est interrompue dans sa lecture et m'a jeté un long regard sérieux par-dessus ses lunettes de soleil, puis elle a continué. pour prouver qu'un Mattei, même ruiné, peut créer une merveille, il fit construire cette fontaine en une nuit. La mère s'est penchée vers l'eau de la fontaine et y a trempé ses doigts. Quand elle s'est relevée, je l'ai reconnue. C'était Marianne Renoir. Je t'entends m'interrompre. Comment l'as-tu reconnue, ta métalepse ? Par les photos que j'avais vues sur Internet, pardi. Mais surtout parce qu'elle ressemble très exactement à la Marianne Renoir que j'avais imaginée en écrivant la Cativa Bambina. Évidemment, elle a pris une vingtaine d'années et quelques rides, mais elle reste Marianne Renoir, grande, mince, élancée. Des cheveux blonds vénitiens s'ébouriffant en franges sur ses yeux très noirs. Incroyable, non ? Maintenant, une question que je soumets à ta sagacité. Dois-je m'offenser qu'elle ne m'ait pas prévenue de son passage ici, alors même que je l'avais expressément invitée il y a 10 jours à peine ? Dimmi che te ne sembra, Octave.
Livia Colangeli à Octave Milton, 24 avril 2018. Caro Ottavio, tu avais invité Frau Metalepse à la villa et ne m'en avais rien dit. N'avions-nous pas convenu que tu me dirais tout ? Livia.
Octave Milton à Marianne Renoir, 24 avril 2018. Chère Marianne Renoir, tout va-t-il bien pour vous à Nantes ? Figurez-vous que j'ai croisé ce matin votre sosie dans les rues de Rome. Votre sosie tenait par la main une jolie petite fille qui était d'ailleurs comme le sosie noisette du sosie roux. Octave Milton.
Marianne Renoir à Octave Milton, 26 avril 2018. Cher Octave Milton, ce n'était pas mon sosie, c'était moi. J'ai été invitée à un colloque sur les lettres portugaises à l'université Roma III et j'ai dû y emmener la plus jeune de mes deux filles, Louise, qui n'est plus, hélas, une petite fille, mais bien une adolescente de 14 ans. Elle a écouté avec un sérieux extraordinaire les 16 communications qui se sont enchaînées sur 2 jours. Je me suis rendu compte récemment qu'une ligne aérienne reliait Rome et Nantes. C'est pratique. J'espère que tout se passe bien dans votre palais. Nous partons en voiture pour Tarquinia avec une collègue qui veut absolument nous montrer les tombes étrusques. Après quoi, retour à Nantes. Bien cordialement, Marianne Renoir.
Octave Milton à Livia Colangeli, 26 avril 2018. Elle me dit qu'il y a un avion qui relie Rome et Nantes. Est-ce une invitation à ce que je la réinvite ?
Livia Colangeli à Octave Milton, 26 avril 2018. Octavio, tu es incorrigible. Mais oui, invite-la et raconte-moi tout. Tes messages sont bien vides depuis quelque temps. Au fait, bravo pour ta dernière chronique, j'ai bien ri. Cette double satire risque de te mettre artiste et universitaire à dos, mais c'est le jeu.
Octave Milton à Marianne Renoir, 28 avril 2018. Êtes-vous bien rentré ? Comment se portaient les petits chevaux de Tarquinia ?
Marianne Renoir à Octave Milton, 28 avril 2018. Les petits chevaux se trouvent dans une tombe désormais fermée au public. Je ne peux donc pas vous donner de nouvelles de leur santé. Cette nuit, je me suis réveillée d'un coup en pensant à votre dernière chronique pour les Inrocks. J'avais acheté le magazine à l'aéroport. Et en me disant, mais je ne suis pas d'accord du tout, il faut que je lui dise. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais l'impression que c'était une affaire d'État. J'étais agacée par le mépris que vous y manifestiez envers les universitaires. Le texte que vous attaquez m'avait semblé assez fin et intelligent. Du coup, j'étais étonnée que vous soyez aussi critique. Ce matin, je ne comprends pas pourquoi cela m'a autant tracassée. Amitié, Marianne.
Octave Milton à Marianne Renoir, 28 avril 2018. Je ne vous écrirai pas longuement car j'ai la nausée. Je viens de manger par erreur des lasagnes végétariennes à base de tofu. Je ne comprends pas si votre critique relève de votre rêve ou de votre pensée, ou les deux. Que vous n'aimiez pas ma chronique ne m'étonne pas. Vous êtes une vraie petite rationnelle dans l'argumentation et je ne le suis absolument pas. Je fonctionne autrement. C'est sans doute ce qui fait de moi un très modeste écrivain. Je n'ai pas trouvé le texte des universitaires très fin ni très intelligent. En revanche, cuistre et sachant, comme le sont presque toujours les universitaires qui ont coutume d'être les pointilleux grammairiens de leur matière. Ce qui m'étonne en revanche, c'est qu'une grande intellectuelle comme vous perde son temps à lire ma modeste chronique dans les Inrocks. N'avez-vous pas mieux à faire ? Octave Milton.
Marianne Renoir à Octave Milton, 28 avril 2018. À dire le vrai, modeste Octave Milton, les critiques de ce genre me semblent toujours démagogiques et faciles. Je suis la première à blâmer l'université, mais c'est une entité à laquelle je suis attachée. Et je trouve que les universitaires sont généralement des gens qui essaient de réfléchir, bien ou mal, peu importe. Les traiter de cuistres et de sachants est un peu dur. Quant à votre expression de pointilleux grammairien de leur matière, eh bien, étant moi-même, au sens propre, une pointilleuse grammairienne, autant qu'une vraie petite rationnelle, je ne peux que me dissocier de vous en vous lisant. Voilà. Au fond, je m'en fiche. Je n'aurais pas dû vous en parler du tout. Je vous écris trop. Je dois vous dégoûter autant que les lasagnes au tofu. Marianne Renoir.
Octave Milton à Marianne Renoir, 28 avril 2018. Vous ne me dégoûtez jamais. Litote à la chimène.
Marianne Renoir à Octave Milton, 28 avril 2018. Drôle que vous citiez Corneille. C'est justement sur lui que je devrais travailler en ce moment pour mon séminaire de l'année prochaine. La mode actuelle chez les stylisticiens, c'est de dire que non. Chimène ne fait pas du tout de litote. Elle dit « je ne te hais pas » pour dire qu'elle ne le hait pas, rien d'autre. Pourquoi chercher midi à 14h ?
Octave Milton à Marianne Renoir, 28 avril 2018. Je ne connaissais pas la mode actuelle sur Corneille. Je ne la suivrai pas. Non parce qu'elle serait fausse, mais parce que je pense que ce n'est pas ceci ou cela. Elle lui dit « je ne te hais pas » pour dire qu'elle ne le hait pas, parce qu'elle l'aime assez pour ne pas vouloir qu'il puisse la croire. Et elle le lui dit pour lui rappeler que malgré tout, elle l'aime.
Marianne Renoir à Octave Milton, 28 avril 2018. Moi, je dirais que bien sûr, c'est ceci et cela. Mais à mon avis, il faut distinguer d'une part ce qu'elle veut dire, et c'est bien « je ne te hais pas » en réponse à Rodrigue qui lui dit qu'il ne peut pas vivre avec sa haine, et d'autre part ce qui est impliqué. Et c'est bien « je t'aime » puisqu'une fois sa haine disparue, il ne peut rester que de l'amour. Son amour est seulement une conséquence logique de son propos. Ce n'est pas son objet en le disant. Je perçois la litote comme une figure badine, un peu brillante. Et je vois Chimène comme trop profond dans le gouffre pour utiliser de telles figures. Elle serait bien coquette d'employer de tels détours à un tel moment pour dire à Rodrigue qu'elle l'aime. Ou bien ce serait de la timidité, mais ils n'en sont plus là. C'est fondamentalement différent de dire « je ne te hais pas » à Rodrigue et de dire « c'est pas dégueulasse » devant un gâteau au chocolat. Et ce dernier exemple me semblerait le vrai type de la litote.
Octave Milton à Marianne Renoir, 29 avril 2018. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec vous. Mon expérience de l'amour est qu'il n'a pas cette logique. L'amour le plus intense n'exclut ni la coquetterie ni l'inconséquence. Bien au contraire. Et je sens beaucoup d'amour dans cette réplique de Chimène. Je l'ai toujours trouvée bouleversante. C'est l'amour qui lui inspire de dire à Rodrigue qu'elle ne le hait pas, car elle ne voudrait pas le rendre malheureux. De même qu'une personne amoureuse, après avoir fait la pire scène, retient d'un geste celui ou celle qu'elle vient d'accabler. Et son amour ici est plus fort que son esprit de vengeance et que son orgueil. En quelques mots, elle les anéantit. Octave Milton à Marianne Renoir, 4 mai 2018. Chère Marianne, une idée un peu folle m'est venue. Vous qui me donnez si volontiers des conseils, voulez-vous être ma marraine ? Je vous explique. La villa me harcèle depuis le début de l'année pour que je me choisisse un parrain. Par contre, cela implique de venir passer quelques jours ici. Tout frais payé, bien sûr. Octave.
Marianne Renoir à Octave Milton, 5 mai 2018. Vous, mon filleul ? Quelle idée ! Mais elle me surprend. Et j'aime être surprise. C'est d'accord. Je peux venir dès mercredi car mes cours sont terminés. Mais je serai avec Louise, ma fille cadette que vous avez déjà aperçue. Ce sont les vacances de Pâques. Marianne.
Octave Milton à Livia Colangeli, 12 mai 2018. Que devient ma Livia ? T'ai-je dit que Marianne Renoir est devenue ma marraine ? Elle est venue me rendre visite ici avec sa fille, Louise. La petite m'intrigue de plus en plus. Elle tient consciencieusement un journal et se mord la lèvre inférieure quand elle écrit. Je me demande à quoi peut ressembler le journal d'une adolescente. Ce soir, en rentrant de la pizzeria, nous sommes passés devant le grand salon. Il était ouvert et dans la pénombre, nous avons regardé les tapisseries du XVIIIe siècle. Sur l'une d'elles, ma préférée, un crocodile dévore un agneau. Un jaguar se jette sur le dos d'un brave tapir. Et des oiseaux exotiques déchirent le ventre d'un hibou effrayé. Ailleurs, des hommes noirs, torse nus, transportent un étendard. Il a fallu le regard de Marianne Renoir pour que je les regarde, ces tapisseries que je vois tous les jours. Raphaël, l'historienne de l'art, est passée. À mesure que sa grossesse avance, elle pâlit et se dessèche. Ses joues sont creuses comme celles de Rosemary dans le film de Polanski. Son bébé paraît lui sucer sa chair de l'intérieur. Elle nous a expliqué que ces tapisseries était une preuve supplémentaire, s'il en fallait, du racisme de cette institution. Que nous mettre des esclaves noirs sous les yeux, c'était entretenir la mémoire coloniale. Marianne lui a fait remarquer qu'il ne s'agissait sans doute pas d'esclaves, mais de princes noirs. Peu importe, a dit Raphaël agacé. Que l'on confonde des princes avec des esclaves en se fondant uniquement sur leur couleur de peau est une preuve supplémentaire de l'inconscient raciste de notre société. Marianne a froncé les sourcils. Pendant ce temps, Louise s'était assise au piano et jouait du bout des doigts un morceau de Schubert en remuant les lèvres. Elle portait une robe bleue à rayures blanches, serrée à la taille par une ceinture en cuir. Son cou était dégagé et se penchait à peine vers le piano. Dans ses cheveux noisettes, elle avait un nœud bleu, du même bleu que le bleu de la robe. Je l'ai trouvée si gracieuse qu'une grande tristesse m'a pris en la regardant. Octave.
Livia Colangeli à Octave Milton, 8 mai 2018. Comme ça, tu as invité Marianne Renoir à venir à Rome et elle est devenue ta marraine ? Et tu ne me le dis que maintenant ? Livia.
Octave Milton à Livia Colangeli, 8 mai 2018. Oui, parfaitement. J'ai une marraine. J'espère que tu ne vas pas être jalouse. J'ai préféré devenir le filleul de la bonne fée Marianne Renoir plutôt que de la vilaine fée Livia Colangeli. Octave.
Livia Colangeli à Octave Milton, 8 mai 2018. Tu sais, mon cher Octave, ce que font les vilaines fées qui ne sont pas invitées à la fête ? Elles se vengent. Livia.
Bonsoir Lise Charles.
Bonsoir.
On vous reçoit dans le cadre du festival Effraction à la Bibliothèque publique d'information pour votre roman qui s'appelle La Demoiselle à cœur ouvert, qui a été publié aux éditions POL et dont on vient d'entendre une lecture. Je voulais commencer par le festival Effraction a décidé d'aborder la question de la, comme on voit derrière nous, du réel et de la fiction. Et on a entendu dans la lecture cette correspondance entre, qu'elle a dans votre roman, entre Octave Milton, un écrivain qui est en résidence à la Villa Médicis, et Livia Colangeli, qui est une figure qui est un peu son inspiratrice, une figure un peu inquiétante, d'une certaine manière, entre beaucoup d'autres choses, et un personnage qui apparaît, qu'on voit apparaître. Donc les deux personnages ont été lus par Violaine Schwartz. Un personnage qui s'appelle Marianne Renoir, qui est donc un personnage qui apparaissait dans les romans d'Octave Milton au départ, et qui là apparaît dans le réel, Et il y a ce mot qu'on entend qui est le mot métalepse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce mot et nous dire comment vous l'avez rencontré, parce que c'est quelque chose qui tisse le réel et la fiction, justement.
Oui, donc comme d'ailleurs c'est expliqué de manière un peu docte dans le livre, la métalepse, c'est le moment où la frontière est brouillée, la frontière qui sépare deux mondes. La définition de Genette, je crois, c'est le monde où l'on raconte et le monde que l'on raconte. Et donc, la métalepse désigne donc le passage de cette frontière en principe sacré. Et en effet, dans le livre, Marie-Anne Renoir est l'héroïne du premier roman d'Octave Milton, et elle apparaît en tant que personnage réel dans le roman qu'on est en train de lire là. Donc lui, il la considère, il la surnomme Métalepse, puisqu'il dit que c'est une coïncidence incroyable qu'une femme qui porte le même nom que l'héroïne de mon premier roman arrive ici. Et ce qui est peut-être qui ajoute une épaisseur à la chose, c'est que cette Marie-Anne Renoir est encore un personnage de fiction, de notre point de vue. Pas du point de vue du héros, mais voilà, donc il y a un jeu de brouillage assez constant.
Est-ce que c'est pour vous aussi une manière, ce jeu de brouillage, de jouer avec une forme de savoir théorique, vous parlez de Gérard Genette, et de le mettre en jeu dans la fiction, de jouer avec ça?
Alors, à vrai dire, Genette est venue après. En fait, je m'étais dit, d'un roman à l'autre, j'ai toujours ce retour des personnages. Et là, je me suis dit, en fait, c'est logique, vu que ce personnage réapparaît, c'est assez logique que le héros commente cette réapparition, cette apparition. Et s'il le commente, alors il convoque Genette et il convoque un savoir théorique. Mais pour moi, le savoir théorique, il est là, il vient après l'événement. Enfin, finalement, l'intrigue, elle préexiste pour moi à cette mise en mots savante.
C'est comme un commentaire.
Voilà. Dans la logique de mon écriture, en tout cas, je me suis pas dit « Ah tiens, je vais faire une métalepse ». Voilà, je me suis dit « Ah tiens, c'est une métalepse ». Voilà, c'est le contraire.
Vous écrivez beaucoup avec des surprises comme ça ?
Oui, je dirais que je suis souvent surprise par, je pense comme presque tous les auteurs, par le texte que j'écris. Je vois des choses qui fonctionnent sans moi. Et je trouve que c'est peut-être la chose la plus agréable dans l'écriture, c'est quand on voit que, une fois le texte terminé, il y a des choses qu'on n'avait pas maîtrisées et qui fonctionnent bien et qui nous surprennent. Et j'ai déjà été surprise aussi par des lecteurs qui m'ont montré des coïncidences qu'ils pensaient volontaires et en fait qui n'étaient pas maîtrisées de mon point de vue.
Dans les choses qui apparaissent dans ce livre, il y a la toile de fond qu'on a entendu aussi dans la lecture, qui est une résidence à la Villa Médicis. Vous avez été résidente de 2017 à 2018. Quel plaisir particulier ça a été d'investir ce cadre, qui est un cadre réel, et d'une certaine manière réinventer une autre résidence qui n'était pas exactement la vôtre.
À vrai dire, en fait, l'intrigue de mon livre, la mécanique d'ensemble, je l'avais depuis très longtemps. Il me manquait justement le cadre. Et c'est assez important parce que comme j'ai peu d'imagination, enfin j'ai une imagination peut-être globale, mais j'ai beaucoup de mal à décrire... à décrire des lieux de manière précise à partir de manière inventée. Et donc, comme là, il s'agit d'un roman épistolaire, c'est-à-dire d'une écriture du quotidien, il fallait énormément de détails pour rendre la chose vraisemblable. Et j'ai trouvé finalement qu'un lieu clos, semi-clos, comme celui qu'est la villa, perché sur un mont, une sorte de bulle française au milieu de Rome, se prêtait parfaitement à l'intrigue. Et ça m'a permis, c'était un lieu que je maîtrisais parfaitement à la fin de l'année, Et donc, une fois que j'ai eu l'idée de le placer là, j'ai pu enfin écrire cette histoire que j'avais en tête depuis si longtemps, en fait.
Quand vous dites que l'imagination, vous n'avez pas beaucoup d'imagination, ça veut dire, ça, c'est assez étrange parce que je dirais pas que La Demoiselle à cœur ouvert est un livre qui est complètement dépourvu d'imagination. C'est au sens de décrire quelque chose de complètement imaginaire. Ça, vous ne pourriez pas.
Oui, en même temps, ce que je dis est peut-être un peu idiot puisque je ne crois pas en l'imagination. Je pense que l'imagination, c'est toujours un assemblage. Enfin, ça aussi, c'est raconté dans le livre, mais c'est un assemblage d'éléments préexistants. Mais disons que j'ai peut-être plus que peu d'imagination, j'ai peu de mémoire. Et donc, pour assembler, il faut quand même avoir en mémoire des éléments et bien maîtriser les éléments que l'on voit. Et donc, j'aurais du mal à faire un assemblage à partir d'éléments que j'aurais vus il y a 10 ans. Ou, voilà, j'ai peu de mémoire des lieux. Et la villa, c'était une mémoire fraîche quand j'ai écrit le livre. Et donc, ça m'a aidé. Donc, je ne parlerai pas d'imagination, je parlerai de mémoire plutôt. C'est plus ça mon problème.
Il y a des choses assez étranges dans ce livre, et même je pense au personnage de Livia Colangeli, dont les initiales sont aussi les vôtres, Lise Charles. Le personnage de Marianne Renoir, qui, on l'a entendu, est universitaire à Nantes, un peu comme vous, je crois. Et Octave Milton, qui est résident à la Villa Médicis, comme vous l'avez été. Comment vous percevez cette diffraction entre vous et vos personnages ? Ce lien, en tout cas.
C'est sûr que, et même on pourrait ajouter Louise, qui est l'adolescente et qui a aussi, dans laquelle je me retrouve beaucoup. C'était assez pratique parce que ça m'a permis cette fois de pas être accusée de dire du mal d'autrui dans mes livres ou voilà, parce que c'était tous les personnages négatifs, on peut m'y reconnaître dedans.
Ah, c'est
donc,
vrai.
Disons que les Octave n'est pas un personnage spécialement sympathique, je pense. Et voilà,
on va y revenir, mais oui.
Donc il y a une sorte de diffraction. Après, certains éléments sont des éléments factuels dans le personnage d'Octave. Octave, il est résident à la Villa Médicis et il a écrit mes livres, mais je ne crois pas du tout avoir son tempérament. Livia Colangeli, c'est elle qui supervise un peu le montage de cette histoire et elle a mes initiales, mais je me sens assez loin d'elle aussi. Donc, en fait, je ne sais pas exactement.
Mais c'est intéressant dans ce que vous dites, parce que c'est une manière pour vous de pas vous inspirer d'autres gens.
Ça, non, mais je me suis dit que non, mais ça c'est un peu une blague. Comme ça, en tout cas, je sais que j'échappe à ce reproche.
Mais c'était pas
mon but premier. Mais je pense que pour bien écrire des personnages, il faut se retrouver dans un peu tous ces personnages. Donc, mais j'ai pas, encore une fois, c'est difficile pour moi parce que c'est vrai que c'est un roman qui se prête peut-être à la théorisation, mais la théorisation n'était pas préexistante en fait. Moi j'ai construit mes personnages et je voulais leur donner de la profondeur. Et donc c'était naturel pour moi de faire ça. C'était naturel de faire. Enfin, si je voulais donner un passé littéraire préexistant au personnage d'écrivain, ben. L'œuvre que je connais le mieux, c'est la mienne. C'est idiot, mais c'est voilà. Et donc pour les nourrir, je trouvais ça logique de les nourrir avec ce que je connaissais le mieux.
Ce qu'il y a d'étrange aussi à la lecture de votre livre, c'est qu'on a un sentiment de vous parler de choses qui viennent naturellement d'une lecture, alors que c'est quand même un roman épistolaire, donc on a affaire que à des correspondances, à des échanges de mails et à la partie du journal de Louise, la fille de Marianne. On a quand même un sentiment de lecture fluide. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, souvent d'ailleurs dans les romans épistolaires, c'est qu'on pourrait croire que d'écrire une correspondance où c'est haché, où il y a des dates, où il y a toujours ce rappel de qui parle à qui, c'est étonnamment une lecture fluide.
Oui, ben ça, c'est, pour moi, c'était une des difficultés principales. C'est vrai, de l'écriture du roman épistolaire, c'était la première fois que j'écrivais un roman épistolaire et je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés spécifiques de composition. Et c'est vrai que cette question de la fluidité, elle est importante. C'est quelque chose qu'il faut travailler. et qu'il faut travailler par en agençant bien les masses. Après, c'est un roman particulièrement hétéroclite, enfin, c'est vrai qu'au milieu, il y a un grand article de grammaire, mais qu'on est plus ou moins incité à sauter ou à passer. Le dernier tiers, c'est un journal. Mais j'ai beaucoup travaillé les liens entre les différentes lettres. Et c'est pas seulement des liens qui réuniraient bout de ficelle, celle de cheval de course, là, qui réunirait AB, la oui. lettre A, la lettre B, la lettre C. C'est aussi une lettre qui réunit la lettre A à la lettre P. Et j'ai vraiment travaillé les passerelles entre des lettres très éloignées et les effets d'écho et de composition pour donner une unité au texte que je vois vraiment comme un tissu, en fait, avec des fils qui partent d'une lettre et qui arrivent à une autre lettre qui peut être éloignée.
Est-ce que vous aviez le sentiment à l'écriture d'écrire un texte romanesque au sens de l'intrigue, vraiment, parce que c'est une dimension qui existe aussi.
Ouais, c'est en tout cas c'est ce que je souhaite. Moi, j'aime bien qu'on s'ennuie pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, j'avais pas du tout envie d'écrire un livre ennuyeux et de toute façon. Pour moi, la composition d'ensemble, donc avec l'intrigue qui se fonde sur un drame, c'était ça l'idée que j'avais au départ. Donc au départ, j'avais dans l'idée d'écrire un texte romanesque. Après, les effets d'écho, etc., c'était la manière dont j'ai écrit. Mais l'intrigue générale, elle est venue très tôt, les caractères des personnages aussi. Voilà, après le côté amusement les remarques de théorie littéraire ou de grammaire, elles sont venues plus tard. C'est vrai qu'elles sont venues.
Comme plus quelque chose de l'ordre du décor ?
Non, je ne dirais pas que c'est du décor.
Plus latéral.
Non, c'est comme si quelque chose au contraire de. Enfin, disons que j'ai pensé à exhiber des ressorts profonds, mais j'ai pensé tardivement à les exhiber, à les faire remonter en surface. Mais au départ, dans les romans, d'habitude, c'est des choses qui restent cachées. Et là, c'est vrai qu'elles sont très visibles, mais je n'avais pas du tout pensé tout de suite à les laisser visibles. À montrer, c'est un roman dont on voit vraiment les rouages, je pense. Mais où l'intrigue occupe une place. Je pense que c'est vraiment un roman à intrigue, il se passe des choses.
C'est ça, c'est comme si votre roman fonctionnait à la fois en nous donnant une intrigue,
ouais.
en nous donnant la critique de l'intrigue, et certains modes d'emploi, mais vraiment très multiples et pas unilatérales,
ouais.
pour lire cette intrigue-là.
Oui, je pense qu'il y a les deux en même temps. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas en écoutant même la lecture tout à l'heure. Je n'ai pas vraiment réfléchi comme ça, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a. C'est à la fois un roman qui avance de gauche à droite et où il y a des épaisseurs de. Oui, ou qui affiche une structure, qui affiche ça, et qui l'affiche parfois de manière trompeuse, je pense aussi. Voilà.
Qui affiche sa fiction, vous diriez aussi ?
Sa
fiction, c'est-à-dire le caractère faux, entre guillemets.
Ben, là, dans les extraits qu'on a écoutés, par exemple, la rencontre à la Lolita près de la fontaine aux tortues. La coïncidence merveilleuse qui fait qu'il voit Marianne Renoir qui justement ressemble exactement à l'héroïne. Il y a quelque chose de faux
c'est
là-dedans,
beaucoup.
Mais comme en même temps il s'en étonne et il le théorise, il formule son étonnement, bah, du coup il y a une vraisemblance. Mais moi je le perçois comme une histoire. Pour moi c'est une histoire vraie, c'est une histoire possible, c'est une histoire qui arrive. L'intrigue générale, ça ressemble beaucoup à des choses qu'on lit dans les journaux.
La frontière entre fiction et réel, vous en avez une vision claire ou vous pensez que ça ne sert à rien d'en avoir une distinction claire entre les deux ?
C'est une question vaste. Je trouve que c'est important de faire la distinction quand même. Mais Mais la fiction est faite à partir d'éléments du réel, donc ça, je ne sais pas si ça a une pertinence non plus. Donc, disons que faire du mal à un personnage de fiction, ce n'est pas la même chose que faire du mal à un personnage de la réalité. C'est bête dit comme ça, mais je pense que c'est quelque chose dont on peut se souvenir. Mais sinon, ça dépend à quel niveau on se place. Enfin, c'est une question trop vaste, je crois, pour tout de suite.
Il y a aussi quelque chose de particulier dans le fait que ce soit un roman épistolaire. C'est-à-dire que quand on est dans la position du lecteur, on a accès à tous les échanges de mails, alors qu'il y a des échanges, il y a toute une construction assez complexe où certains personnages ne lisent pas des mails que, par exemple, Livia ne va pas lire la correspondance entre Marianne et Octave.
Ouais.
Et ça pose le lecteur, un peu comme le lecteur des Liaisons dangereuses de Laclos, par exemple, dans une situation où il voit tout, il est omniscient, c'est-à-dire il voit les mensonges, il voit aussi des petits mensonges, des petits arrangements avec la vérité qu'il y a souvent chez les personnages. Et ça le met quelque part dans une posture morale, pas au sens moraliste, mais au sens où il peut être amené à juger ce qu'il est en train de lire. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé, la place du lecteur ?
Oui, ben c'est vrai que moi j'ai un grand goût pour les romans épistolaires, notamment les Liaisons dangereuses, mais pas seulement. Et j'aime bien cette position, je trouve ça intéressant, cette position du lecteur voyeur qui se sent mal de découvrir la correspondance, une correspondance à laquelle qui n'était pas faite pour lui. Je trouve que cette sensation de malaise, elle exacerbe en fait une sensation qu'on peut avoir toujours en lisant des livres, mais là, elle la porte vraiment à son comble. Et pour moi, c'est vraiment important. Même, et je dirais que là, finalement, j'ai un peu été en retrait par rapport à mon projet initial, puisqu'au départ, ce roman était censé... Je voulais vraiment le faire sous forme d'une vraie correspondance par mail, et je voulais pas que ce roman soit publié en papier. En fait, mon projet dont j'avais parlé à l'époque à mon éditeur, Palio Tchaikovsky-Laurence, c'était de le présenter comme une vraie messagerie électronique, et on donnerait au lecteur un code, une adresse Gmail où se connecter, ou Gmail ou la poste, avec un mot de passe, et il aurait fait effraction dans la boîte aux lettres de quelqu'un, et les messages seraient apparus peu à peu. J'avais pris rendez-vous avec un informaticien, on avait discuté du projet, enfin bon, et puis après je me suis dit qui va acheter ça, qui va, enfin voilà, et puis je me suis dit que c'était beaucoup de travail, et pour finalement quelque chose, enfin je suis attachée quand même à la forme papier du roman, mais disons que dans cette hypothèse imaginaire, le lecteur aurait été encore plus dans la position de l'homme jaloux ou de la femme jalouse qui fouille une boîte mail, comme on l'a pas tous fait, mais enfin voilà,
ça peut arriver
Voilà, et donc c'était ça que je pense qu'on a un peu cette sensation-là aussi dans le livre, et c'est une sensation que je trouve intéressante.
Vous êtes attentive à la manière dont, même dans le quotidien et en dehors de la littérature, le numérique et l'échange de mails a apporté ou enlevé quelque chose à la correspondance, ou à la manière d'écrire en tout cas ?
Je trouve que... Enfin, les correspondances par mail, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Ce qui me rend triste depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'avec les textos, WhatsApp, etc., on écrit beaucoup moins. Enfin, personnellement, j'écris beaucoup moins de mails. Alors qu'il y a 5-6 ans, j'avais vraiment une boîte très remplie. Et je trouve que les mails, oui, il y a des différences avec les lettres qui sont l'immédiateté, des échanges qui peuvent être très, très serrés. Et au contraire, extrêmement lointain, on retrouve la faculté de recherche aussi dans une boîte mail. On peut chercher très facilement un mail d'il y a 3 ans et lui répondre comme s'il avait été envoyé hier. Donc c'est pas la même temporalité, et aussi c'est pas la même c'est pas le même type d'écriture. Ben, j'ai profité de la forme du mail aussi parce que le mail permet les pièces jointes. et donc de joindre un article, de joindre un journal, de joindre... Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis c'est aussi une écriture plus rapide, donc moins soignée. Après, le problème quand on écrit un roman comme ça, c'est que... moi, au départ, j'avais dit à PEL que je ne voudrais pas de correcteur d'orthographe et que je voudrais que ce soit brut et qu'il y ait des fautes d'orthographe,
intégrer
etc.
Les fautes, ouais.
Mais en même temps, il faut faire comprendre au lecteur que ce n'est pas de la négligence, que tout est maîtrisé. C'est assez compliqué. Mais, oui, pour toutes ces raisons, je trouve que le mail est une forme intéressante.
Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est que... Il y a beaucoup de moments où Octave, alors je ne sais pas si j'ai envie de l'incriminer particulièrement ce soir, mais il fait des copier-coller. Mmh. C'est-à-dire que c'est souvent dans des mails de Livia, il copie-colle des choses que Livia lui a écrites sur plusieurs éléments et il le redit à d'autres gens en se les appropriant. Mmh. Quel geste c'est ça?
Disons que c'est un mini geste d'écrivain vampire, comme dit il y a un des personnages qui l'accuse à un moment d'être un écrivain vampire et un écrivain il peut être vampire dans les grandes masses en s'inspirant globalement c'est normal pour un écrivain, je vois pas comment un écrivain peut être autre chose qu'un vampire mais il peut l'être aussi de manière plus mesquine en simplement s'appropriant. Pour moi, c'est quelqu'un, Octave Milton, ça fait partie de ces gens qui ont une digestion très, très, très rapide. Je pense que tout le monde digère les choses, mais c'est vrai que c'est, ça peut être un peu plus agaçant quand les gens à digestion rapide, ils reproduisent très vite et sans beaucoup de transformation ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu. Et lui, c'est peut-être aussi ce qui en fait un écrivain qui n'est pas très bon, à mon avis. C'est qu'il a, il a un système digestif très, très, très rapide, quoi.
Très voilà. Rapide. C'est étonnant parce que c'est justement la personne qui, en arrivant à la Villa Médicis, va dire « Je suis déçu, toutes les statues sont des copies ».
Voilà, il n'aime pas forcément voir sa démarche à lui ne lui plaît pas nécessairement, mais il a un problème avec l'idée de copie. Clairement, quand il s'agit peut-être de recopier des bouts d'un journal intime, il a envie de le faire, mais il faut en même temps qu'on le convainque que ce n'est pas mal, que c'est quand même un vrai écrivain, que ce sera son œuvre. Donc ce n'est pas parce qu'il copie qu'il aime voir des copies. Ça me paraît assez logique. Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport au texte et à l'autorité qui peut être proche de l'art contemporain dans la certaine, comme si d'une certaine manière Octave se mettait à installer le journal de Louise, le journal d'une adolescente à un moment.
Un moment pour le convaincre de de récupérer directement ce journal, je crois que c'est Livia qui lui dit Duchamp n'avait pas construit le bidet de ses mains, il l'a juste montré, mais c'est quand même l'œuvre de Duchamp. Donc oui, c'est lié à des pratiques d'art contemporain. Je ne suis pas experte du tout, mais j'ai l'impression que ça peut être perçu comme une démarche. En tout cas, c'est une justification qu'il se donne. Il a un argument d'autorité quand il convoque des artistes contemporains.
Il pourrait aussi convoquer aussi bien l'idée qu'on n'invente rien en littérature, qui est une idée assez...
Voilà, mais ancienne. C'est une idée ancienne et raisonnable. Je pense que, de fait, l'idée d'invention pure n'a pas de sens. Si on crée un monstre, on va lui donner des oreilles de lapin, un museau de cochon et une queue de cheval. On ne peut pas créer à partir de rien. Donc, l'invention pure, c'est évidemment... Mais après, tout dépend je vais être plus originale si je fais un monstre à partir de beaucoup d'éléments que j'assemble à ma manière que si je fais juste un centaure ou une composition moitié-moitié. Donc l'idée d'invention, elle est... Oui, c'est une idée, c'est une question complexe, mais c'est l'assemblage, à mon avis, qui fait l'invention.
Ce qui est détonnant aussi dans la correspondance, c'est qu'il y a des échanges entre Octave Milton et son éditeur, donc Paulo Tchaïkovski-Laurence, que vous avez cité tout à l'heure, qui était donc votre éditeur. Et à un moment donné, Paulo Tchaïkovski-Laurence lui donne le conseil. C'est pas vraiment un conseil, mais il lui dit qu'il ne faut pas, quand il écrit, se soucier des lecteurs.
Ouais.
Est-ce que c'est un vrai message de POL lui-même? Et qu'est-ce que vous pensez de ce conseil-là?
Bah oui, comme j'ai publié le livre après la mort de POL, et donc je ne me suis pas permis de changer ses messages. Tous les messages de Paul sont des vrais messages. De manière générale, tous les messages de personnes dont les noms sont, dont j'ai gardé le nom, sont des vrais messages. François Maton, qui est un dessinateur, m'a permis, je lui ai écrit « Est-ce que tu veux bien que je récupère ta correspondance ?» Il m'a dit oui, sans relire, et donc ce sont ses vrais messages. J'ai aussi un personnage de peintre qui a accepté. Et donc le message de Paul est un vrai message. Et ça tombait bien, parce qu'en effet, il disait... en fait, c'était un message qu'il m'avait envoyé parce que j'étais prise dans ce projet électronique un peu démesuré. Et je lui disais, mais j'ai peur que ce soit pas lisible. J'ai peur que... En plus, l'informaticien m'a dit, ça marchera que sur des Mac et pas sur des, et pas sur des PC. Donc, j'étais super stressée. Je me suis dit, ça va pas. Donc, je lui ai dit, ça sera pas lisible. Et puis, je veux pas faire quelque chose qui marche qu'avec Apple. Enfin, bon, voilà. Et donc, il m'a répondu, ne vous préoccupez ni de la technique, ni des lecteurs. C'est un message que j'ai trouvé très noble et très digne de lui, mais qui ne me convenait pas du tout, parce que avant de me lancer dans un projet comme ça, ça me semblait naturel de me préoccuper de la technique et de la lisibilité. Donc se préoccuper des lecteurs, il me semble quand même que quand on met en forme, si j'invente une histoire pour moi-même, je ne me préoccupe pas des lecteurs, mais si je publie, je me préoccupe de mon lecteur. Donc j'aurais bien aimé lui en parler, il m'avait dit on en parlera plus tard, et puis... il était censé venir à la villa voilà. Et donc c'est une question que j'aurais bien aimé discuter avec lui.
Est-ce que c'était dans cette écriture épistolaire, ça a été quoi pour vous de disparaître complètement comme narratrice, de ne pas raconter quelque chose où est la troisième personne?
C'était très très agréable qu'il n'y ait pas de narrateur surplombant et de narrateur avec lequel on puisse éventuellement me confondre, parce qu'on a beau dire il faut séparer le narrateur de l'auteur, etc., il y a toujours... on se demande toujours quand même quel est le lien entre le narrateur et l'auteur. Et donc on ne se demande rien, puisque j'y suis pas. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... j'étais très agréablement surprise en voyant les réactions des lecteurs, parce que... les gens, souvent les lecteurs, jugent de manière très radicale les personnages en disant Octave est un... Voilà, Livia est aussi affreuse, etc. Oui. Mais j'ai eu une lectrice qui m'a dit « Ah, Livia, ça pourrait être ma meilleure amie, j'ai vraiment envie de... » Voilà, et Octave, quand même, c'est une âme sensible. Et certains ont trouvé que Louise était une infâme, donc l'adolescente était une infâme petite prétentieuse, et d'autres non. Et j'ai bien aimé que... Enfin, j'étais contente de voir qu'on pouvait avoir des jugements différents sur les personnages, comme finalement dans la vraie vie, où voilà, chacun n'avait pas la même opinion. Et c'est vrai que quand il y a un narrateur surplombant, on a tendance quand même à... Soit c'est un narrateur clairement manipulateur et indigne de confiance, soit s'il est plus neutre, on a tendance à lui faire confiance et donc à adopter son jugement. Et là, il n'y a pas du tout cet effet-là. On ne sait pas du tout quand Octave a des propos plus ou moins misogynes, on peut trouver qu'il a raison ou on peut trouver que c'est un infâme machiste. Je pense qu'il y a une liberté de jugement plus grande que dans beaucoup de romans non épistolaires.
Et ce qui renvoie aussi à la posture, oui, le jugement moral est laissé au lecteur.
Voilà, c'est le lecteur qui... j'ai l'impression que c'est un roman qui attire beaucoup de jugements moraux, beaucoup de condamnations de personnages, mais qui varie, en fait. Et c'est intéressant de voir... Ça, c'est un peu comme j'aimais bien, il y a un test de moralité, morality test, mais bon, je ne vais pas vous le raconter là, mais il faut chercher sur Internet, Robin Hood morality test. Et c'est une petite histoire qui met en scène Robin des Bois, Marianne, etc. Puis il faut classer les personnages par ordre de moralité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, en classant les personnages, on se classe soi-même. Enfin, tout le monde ne fait pas le même classement. Voilà, et bon, bref, c'était...
On pourrait faire passer vos personnages au morality test.
Voilà, c'est ça, ouais.
À la fin de la lecture de tout à l'heure, ça finissait sur Livia qui parlait de la question de la vengeance, ce qui renvoie un peu aux liaisons dangereuses aussi, à la marquise de Merteuil, qui est une de ses armes, c'est la vengeance. Quel statut elle a, cette vengeance ?
Quel statut elle a ? C'est-à-dire.
Alors, c'est compliqué parce qu'on ne va pas totalement divulgâcher ce roman. Mais on va dire qu'il y a un moment donné dans le roman où ce qui pouvait relever du jeu cesse d'être léger.
Ouais.
Et on se rend compte que les mots et leur publication peuvent avoir un impact.
Oui.
Qui peut être violent, même si tuer quelqu'un en fiction n'est pas tuer quelqu'un dans le réel.
Oui. Oui, donc le roman peut être perçu donc, comme un acte de vengeance, en fait. C'est ce que. Mais c'est vrai que c'est très très difficile sans divulgâcher pour employer le mot québécois, je crois. Enfin, donc c'est difficile d'en parler, mais oui, la publication du livre est proposée comme un acte de vengeance, mais je sais pas quoi dire sur ce sujet.
Est-ce que c'était une manière pour vous d'amener du drame d'une certaine façon, mais aussi de dire que publier les mots, ça peut avoir des conséquences éventuellement tragiques.
Oui. Dans ce cas-là, il y a vraiment une action de ces... Clairement, oui. Une action de ces mots. Et la publication est perçue, est présentée comme une... en tout cas, la correspondance devient une arme. Et en effet, pour le titre du livre, La demoiselle au cœur ouvert, en fait, c'est le titre d'un livre anonyme du XVIIe siècle qui est complètement oublié. Et j'aimais bien ce titre. Et le sous-titre tombait très bien, c'était l'hypocrisie découverte. Et finalement, mettre les lettres côte à côte, c'est un peu comme dans la scène dans Le Misanthrope, où d'un coup, les amants de Chimène se liguent, de Célimène, pardon, se liguent contre elle et se montrent leurs lettres, et donc découvrent l'hypocrisie. Pour moi, c'est une scène horrible. C'est le moment où tous nos amis se révèlent les choses, qu'on leur a dit secrètement,
et se liguent. Les choses qu'on dit sur les uns et les autres.
Voilà. Et c'est une scène ça peut tuer une personne. Et donc, cette hypocrisie découverte par la confrontation des lettres. Pour moi, il y a quelque chose, de terrible et qui peut être une arme contre les personnages. Même s'ils l'ont mérité, c'est quand même dur.
Vous pensez que la littérature, même au XXIe siècle, ça peut être un moyen justement de déjouer l'hypocrisie ou de la montrer ?
Je ne me suis pas trop posé cette question en écrivant, mais disons que je trouve que c'est pas mal de... C'est vrai que l'histoire, finalement, de cet écrivain vampire qui s'inspire de la vie de ses personnages avec des allers-retours, c'est un écrivain vampire qui s'inspire et qui va s'inspirer de la vie d'une adolescente et ce qui a des conséquences directement sur elle... C'est une histoire qu'on entend, qu'on entend beaucoup ça sur des procès d'écrivains. À vrai dire, l'histoire est très ancienne et je m'étais plutôt inspirée de. Enfin, moi, à l'époque où j'ai pensé cette histoire, je lisais pas du tout les journaux et donc j'étais en prépa et je lisais beaucoup et donc c'était plutôt inspirée d'une histoire qui était arrivée à Schnitzler. C'est vrai qu'au moment où j'ai fini de l'écrire cette année, je lisais un peu plus. J'ai un peu plus suivi des affaires de procès littéraires, etc.
Dans les fictions contemporaines.
Et je me suis dit, ça tombe bien. Et c'est vrai que c'était. Pour moi, la fiction n'est pas une arme pour dénoncer ça. Hein. Je ne voulais rien dénoncer du tout. Je voulais raconter une histoire. Mais disons qu'il y a des échos.
Mais quand. Oui, c'est pas forcément une dénonciation, mais juste un révélateur. Une certaine manière d'exposer, de montrer les choses.
Disons que ça montre de. Oui, peut-être. Mais j'ai pas du tout un but d'action sur le réel. Enfin, c'est pas du tout mon but en écrivant. Mon idée, c'était de raconter une histoire que je trouve. Qui moi me tenait à cœur, que je trouvais un peu poignante. Voilà.
Dans l'exercice d'écriture, il y a aussi donc ce journal de Louise. Donc une adolescente, c'est étendu, c'est sur de ses 7 à
de
ses
7 à 14 ans.
14 ans, oui. Il vient d'où ce journal ?
Ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. D'accord. On l'a souvent posé, mais je suis même plus sûre de savoir la réponse. Souvent, on se demande si c'est mon propre journal ou pas. Enfin, voilà. En tout cas, c'est clair que c'est très lié à des expériences intimes que j'ai eues, mais. Sur ce à quoi je peux répondre, par contre, c'est je peux te dire que avant de s'appeler d'être le journal de Louise de 7 à 14 ans, c'était un livre à part entière qui était beaucoup plus long et qui s'appelait Marianne 7-18 et qui une sorte de journal intime, mais que je décrivais plutôt comme des pensées en mouvement, parce que c'est des sortes de pensées très philosophiques qu'on a à 7 ans, puis à 8 ans, puis à 9 ans, et qui souvent se répètent les unes les autres avec des variations. Et ça allait de 7 ans à 18 ans. Et c'est ça le premier état. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai raccourci et je l'ai modifié pour le mettre de 7 à 14 ans dans le livre. Et je l'ai beaucoup modifié aussi parce que j'ai modifié les dates. Quand c'était 7-18, ça correspondait à ma date de naissance et à mes 18 ans. Et donc, j'ai tout changé. Mais ensuite, Octave, lui, quand il réécrit un texte à partir de ce journal, il rechange. Donc, il réécrit un texte qui s'appelle Marianne 7-18. Du coup, dans ma tête, Octave publie mon propre texte, enfin écrit mon texte premier. Et donc quand il y a des commentaires qui sont faits sur ça, c'est des commentaires faits sur mon premier texte, j'ai l'impression d'être très 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 embrouillée.
Non, c'est assez clair.
Voilà, donc il y a un effet d'aller-retour, et donc ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un texte premier qui existe, et que d'ailleurs, au départ, mon idée, c'était de le publier. Au départ, j'avais hésité à demander à Frédéric Boyer de publier d'abord Marianne 7-18, et ensuite, quelques mois plus tard, La Demoiselle à cœur ouvert, qui inclut d'une manière déformée ça. Puis je me suis dit, non, ça va faire trop. On n'aura pas envie de lire deux fois presque la même chose. Et puis, ça fait trop jeu formaliste. Voilà, j'ai préféré publier uniquement ça.
Est-ce que vous diriez que les récits, les histoires, c'est toujours quelque chose qui vous arrive en foule ? Enfin, il y en a toujours plusieurs.
Non. Par exemple, là, j'ai rien du tout en tête pour la. Enfin, voilà, j'avais ça en tête et je suis pas pressée d'écrire autre chose. Enfin, j'ai un autre projet, mais qui est pas romanesque directement. Je suis pas submergée, non. Mais par contre.
En tout cas, pour la construction d'un roman.
Par contre. Disons que j'ai pas d'angoisse du tout de la page blanche parce que Parce que je n'écris que quand j'ai quelque chose à dire et que j'écris aussi quand j'ai toute la structure dans ma tête. C'est forcément une histoire que je me suis racontée pendant des années. Donc après, il faut simplement... Enfin, j'écris le début, la fin, et puis je mets des choses au milieu, mais j'ai pas de... Enfin, je me mets à écrire qu'une fois que c'est naturel. Du coup, la phase de l'écriture va assez vite. C'était ça, la question ?
Je sais plus. Ouais. En tout cas, c'est un travail de structure d'abord ?
Oui, pour moi, disons que c'est comme une petite histoire que je me raconte et qui grandit... avec les années et qui est une histoire, une sorte de vie parallèle que j'aurais où je me dis ah tiens et Octave qu'est-ce qu'il a fait et là par exemple j'avais le début, j'avais la fin et le milieu c'était j'étais pas en train de me demander oh là là comment je vais réunir ça et ça, je me disais mais pourquoi il a fait ça déjà et du coup finalement l'écriture, oui, elle s'amplifie dans ma tête avant que je me décide à l'écrire. Voilà, et donc les détails, ils me viennent assez, finalement, ils me sont venus assez naturellement. Si j'ai pas ce sentiment d'évidence, je pense que le lecteur ne l'aura pas non plus, donc je pense que ça sera raté, en fait. Donc j'attends de savoir vraiment pourquoi les personnages ont agi comme ci ou comme ça.
Il faut qu'il y ait un sentiment d'évidence, toujours.
Ouais. Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait un sentiment d'évidence. Je crois assez à... Enfin, ça paraît un peu niais, mais je crois assez à ça. C'est si on a un sentiment d'arbitraire... Pour moi, les noms des personnages ne peuvent pas être arbitraires, leurs actions ne peuvent pas être arbitraires. Ils ne le sont pas non plus dans ma tête. Je ne me dis pas que j'ai le choix entre ça et ça. Je n'ai jamais l'impression d'avoir que les personnages peuvent prendre une voie différente que celle qu'ils ont prise.
Du coup, vous n'avez pas du tout le syndrome de la page blanche, ouais.
Non, pas du tout, mais parce que aussi, je ne considère pas que le monde a besoin de mon écriture. Donc, je suis prof, j'ai d'autres choses dans ma vie. Et donc, j'écris que si vraiment je... Ben, j'ai quelque chose à raconter. Donc, le syndrome de la page blanche, ce serait soit parce que je suis poussée par des difficultés financières, mais comme j'ai un métier par ailleurs, je n'ai pas besoin, soit parce que je trouve que c'est vraiment très important qu'en 2022, il y ait une nouvelle publication, mais ce n'est pas le cas. Donc, non, je ne suis plus trop tranquille de ce côté-là.
Donc, en ça, vous êtes très différente d'Octave.
Oui, parce qu'Octave, il est dans une posture d'écrivain. De ça, en fait. C'est un vrai écrivain qui vit de ça et qui... Et c'est quelque chose que je peux comprendre, hein. Cela dit, je me moque, mais je peux comprendre, mais c'est pas trop mon cas.
Et donc, vous n'avez pas de projet d'écriture, là
Là, j'ai un projet de roman graphique, une sorte de BD, enfin de roman graphique, en fait, avec François Maton, qui se trouve être le frère d'Octave Milton dans La Demoiselle à cœur ouvert. Et d'ailleurs, c'est après avoir lu ce livre qu'il m'a dit « Ah, il faut vraiment qu'on travaille ensemble ». Et donc, on travaille beaucoup ensemble. C'est un assez gros projet, je pense. Et voilà.
C'est François Maton qui, dans le livre, dit à un moment qu'il serait très heureux d'être un personnage.
Voilà. Oui, parce que j'avais une correspondance assez amusante avec François Maton et je m'étais dit qu'il serait parfait en frère du... un frère d'Octave Milton. En plus, Milton, certains prononcent Milton, et donc Maton, ça, je trouvais que ça marchait bien. Et donc, je lui ai écrit, et il m'a dit « Ah, mais moi, je suis déjà un personnage, donc je serais très contente d'être dans ton livre. » Et il m'a fait confiance, qui m'a touchée, parce que je trouve que c'est pas du tout évident d'accepter de devenir un personnage comme ça, d'être malmené par... par quelqu'un de cette manière.
Quel plaisir c'est pour vous d'entendre des comédiens jouer, lire, performer vos textes ?
C'est un grand plaisir et en même temps, je me dis que c'est dommage que ça ne précède pas la publication. Parce qu'en entendant Souvent, je pense à des choses, à des phrases que j'aurais aimé changer. Et c'est vraiment important d'entendre. Et moi, je ne sais pas très bien lire à haute voix. Donc, je pratique pas du tout le gueuloir, et etc. Parce que sinon, ça me dégoûterait tout de suite de mes propres textes. Et donc, je me dis que ça serait vraiment bien d'avoir Violaine Schwartz ou Pierre Beau ou à domicile pour...
tous les jours.
Voilà, pour m'aider à la fin de... Voilà, donc c'est un grand plaisir, par ailleurs, parce que c'est le plaisir du texte qui échappe. Donc il y a un plaisir mêlé de déplaisir, c'est tout à la fois. Mais, voilà.
Merci, Lise Charles.
Ben, merci beaucoup.